Chapitre 5. Le temps que Didi et Bobby fassent le tour jusqu'à l'avant de la propriété, les ambulanciers sortaient un brancard de l'arrière d'une ambulance. Didi jeta un coup d'œil dans leur direction puis reconnut l'agent posté à l'extérieur du ruban jaune avec le registre de scène de crime. Elle alla d'abord le voir.
« Salut, Fisk. Vous avez noté tous les agents jusqu'au dernier qui sont entrés dans la baraque ?»
demanda-t-elle en montrant le calepin où il consignait le nom de toute personne qui franchissait le ruban.
« 42 agents, »
répondit-il sans sourciller.
« Punaise ! Est-ce qu'il reste encore un policier en patrouille dans tout Boston ?»«
Pas sûr. »
Un gamin jeune et sérieux. Didi rêvait-elle ou bien est-ce qu'ils étaient de plus en plus jeunes et sérieux à mesure que les années passaient ?«
Bon, et voilà le problème, agent Fisk. »
Pendant que vous prenez les noms ici, d'autres policiers entrent et sortent par l'arrière de la propriété et ça me fait vraiment chier.
Fisk ouvrit les yeux comme des soucoupes.
Vous avez un petit camarade ? Continua Didi. Demandez-lui par radio d'attraper un calepin et de se poster à l'arrière de la maison.
Je veux nom, grade, numéro de matricule, le tout par écrit.
Et pendant que vous y serez, tous les deux, faites passer le message. Tout agent d'État qui s'est pointé à cette adresse est tenu de passer au QG de la police municipale d'ici ce soir pour qu'on prenne l'empreinte de ses bottes. Corvée de paperasse immédiate pour ceux qui n'obtempéreront pas. Vous le tenez de l'officier de liaison lui-même, conclut-elle en montrant Bobby qui levait les yeux au ciel derrière elle.
Didi, ils ont piétiné ma scène. Je ne pardonne rien. Je n'oublie rien.
Bobby se tut. Didi aimait ça chez lui. Ayant ainsi sécurisé sa scène de crime et versé un peu d'huile sur le feu, Didi se dirigea vers les ambulanciers qui, aux deux bouts du brancard, se préparaient à monter l'escalier raide jusqu'à la porte d'entrée.
« Un instant !»
Les ambulanciers, un homme et une femme, s'arrêtèrent en voyant Didi approcher.
« Commandant Didi Warren, je suis chargé de ce cirque. Vous venez pour emmener l'agent Léonie ?»
À l'avant du brancard, une femme robuste confirma d'un signe de tête en se retournant déjà vers les escaliers.
« Hola, hola, hola !» intervint Didi. « Laissez-moi 5 minutes. J'ai 2-3 questions à lui poser avant qu'elle prenne le large. »
L'agent Léonie a subi un sérieux traumatisme crânien, répondit la femme avec autorité. « On l'emmène à l'hôpital pour un scanner. Vous faites votre boulot, on fait le nôtre. » Encore un pas vers les escaliers, Didi se mit au travers.
« Est-ce que l'agent Léonie court le risque de se vider de son sang ?»
insista-t-elle. Elle regarda le badge de son interlocutrice, ajouta avec un temps de retard.
« Marla ?»
Marla resta de marbre.
« Non.
Est-ce qu'il y a un danger immédiat pour sa santé ?»«
Œdème cérébral, hémorragie cérébrale, »
énuméra l'ambulancière. « Dans ce cas, on va la tenir éveillée et lui faire réciter son nom et la date. C'est bien comme ça que vous faites en cas de commotion, non ?» Comptez de 1 à 5 et inversement, nom, grade, numéro de matricule et tout le tintouin. À côté d'elle, Bobby soupira. Didi marchait clairement sur une corde raide. Elle resta focalisée sur Marla qui avait l'air encore plus exaspérée que Bobby.
« Commandant !»
commença Marla.
« Un enfant a disparu !»
l'interrompit Didi. « Une petite fille de 6 ans, Dieu sait où elle est et quel danger elle court. J'ai juste besoin de 5 minutes, Marla. C'est peut-être beaucoup vous demander à vous, avec votre boulot, et à l'agent Léonie avec ses blessures, mais je ne crois pas que ce soit trop demandé pour une petite fille de 6 ans. »
Didi était douée, elle avait ça dans le sang.
Marla, 45 ans, qui devait avoir au moins 1 ou 2 enfants à la maison et sans doute un nombre indéterminé de jeunes neveux ou nièces, céda.
« 5 minutes. » dit-elle avec un regard vers son collègue.
« Ensuite, que ça vous plaise ou non, on l'embarque. »«
Ça marche !» convint Didi en gravissant les escaliers 4 à 4.
« Tu as mangé du lion ce matin ?»
marmonna Bobby sur ses talons.
« Tu es jaloux, c'est tout. »«
Pourquoi je serais jaloux ?»«
Parce que je m'en sors toujours avec de beaux discours. »«
Plus dure sera la chute, »
murmura Bobby. Didi poussa la porte d'entrée.
« Pour la petite Sophie, espérons que non. »
L'agent Léonie était toujours dans le jardin d'hiver. Didi et Bobby durent traverser la cuisine pour y accéder. Le cadavre de Brian Darby avait été emporté, laissant derrière lui un parquet taché de sang, une collection de plots de signalement,
et une épaisse couche de poudre à empreintes digitales. Les reliquats classiques d'une scène de crime. Didi se boucha le nez et la bouche en rasant le mur. Elle avait encore deux pas d'avance sur Bobby et espérait qu'il n'aurait rien remarqué. Tessa Léonie leva les yeux à leur arrivée. Elle tenait un sac de glace contre une moitié de son visage, ce qui ne parvenait pas à masquer sa lèvre sanguinolente ni l'entaille qui suintait sur son front. Lorsque Didi entra dans la pièce, la policière baissa le sac et découvrit un œil violacé et gonflé qu'elle ne pouvait déjà plus ouvrir. Malgré elle, Didi éprouva un choc. Qu'elle se fît ou non aux premières déclarations de Léonie, il ne faisait aucun doute que la policière avait été brutalisée. Didi jeta un bref coup d'œil aux mains de la policière pour y chercher des blessures de défense. Surprenant son regard, l'agent Léonie posa le sac de glace sur ses doigts. Les deux femmes restèrent un instant à s'observer. Didi trouva que l'agent Léonie avait l'air jeune, surtout dans sa tenue bleue réglementaire. Longs cheveux bruns, yeux bleus, visage en forme de cœur. Jolie, malgré les traces de coups qui lui donnaient l'air peut-être plus vulnérable encore. Didi se crispa immédiatement. Les jolies filles vulnérables mettaient presque toujours sa patience à rude épreuve. Didi examina les deux autres personnes présentes dans la pièce. Debout à côté de Léonie, un policier d'État d'un gabarit impressionnant, le torse bombé pour se donner le plus possible des airs de gros dur. Inversement, assis en face d'elle, un monsieur d'un certain âge, format de poche, costume gris, avec un bloc-notes jaune posé délicatement en équilibre sur le genou. « Délégué syndical, debout », conclut Didi. « Avocat engagé par le syndicat, assis. Le gang au complet. » Le délégué syndical fut le premier à prendre la parole. « L'agent Léonie ne répondra à aucune question », affirma-t-il avec un coup de menton. Didi lut son badge. « Agent Lyons. » Elle a fait une première déclaration, continua-t-il avec raideur. « Toutes les autres questions devront attendre qu'elle ait reçu les soins d'un médecin. » Il regarda la porte derrière Didi. « Où sont les ambulanciers ?»« Ils prennent leur matériel, » dit Didi d'une voix apaisante. « Ils seront là dans une minute. » Les blessures de l'agent Léonie sont naturellement une priorité. Nous ne voulons que le meilleur pour une collègue. Didi se décala vers la droite pour faire de la place à Bobby à côté d'elle. Front commun de la police municipale et de la police d'État. L'agent Lyons ne se démonta pas. L'avocat s'était levé. Il tendit la main. « Ken Cargill, je représenterai l'agent Léonie. »«
Commandant Didi Warren, » dit Didi avant de présenter Bobby.
« Ma cliente ne répondra à aucune question dans les médias. Lorsqu'elle aura reçu les soins médicaux appropriés et que nous connaîtrons l'ampleur exacte de ses traumatismes, nous vous le ferons savoir. »
« Je comprends. Je ne veux pas vous bousculer. Les ambulanciers disaient qu'il leur fallait quelques minutes pour préparer le brancard, les perfusions. J'ai pensé que nous pourrions en profiter pour voir deux, trois points essentiels. Nous avons déclenché une alerte enlèvement pour la petite Sophie, mais je dois être franche. » dit Didi en écartant les mains dans un geste d'impuissance, « nous n'avons aucune piste. Comme l'agent Léonie doit le savoir, chaque minute compte dans ce genre d'affaires. »
En entendant le nom de Sophie, l'agent Léonie se raidit sur le canapé. Elle ne regardait ni Didi, ni aucun des hommes de la pièce. Son regard était rivé sur un point de la vieille moquette verte, les mains toujours sous le sac de glace.
« J'ai cherché partout, » dit-elle brusquement. La maison, le garage, le grenier, sa voiture.
Tessa,
intervint l'agent Lyons.
Ne fais pas ça. Rien ne t'oblige à faire ça.
À quelle heure avez-vous vu votre fille pour la dernière fois?
Demanda Didi en s'engouffrant dans la brèche tant qu'elle restait ouverte.
À 11h moins le quart hier soir,
répondit l'agent d'un air absent, comme un perroquet.
Je jette toujours un œil sur elle avant d'aller prendre mon service.
Didi tica.
« Vous êtes parti d'ici à 11h moins le quart pour votre service de 11h ?
Vous pouvez rejoindre la caserne de Framingham en 15 minutes ?»«
Je ne vais pas à la caserne. On ramène les véhicules de patrouille chez nous, donc dès qu'on prend le volant, la patrouille commence. J'ai appelé le coordonnateur depuis mon véhicule et je me suis mise en code 5. Il m'a donné mon secteur de patrouille et c'était parti. »
Didi hocha la tête.
dans la mesure où elle ne travaillait pas pour la police d'État, elle ignorait ces détails. Mais elle jouait aussi à un petit jeu avec l'agent Léonie. Un jeu qui consistait à établir l'état psychique de la suspecte. Ainsi, quand elle finirait immanquablement par se trahir et que son consciencieux avocat chercherait à escamoter cet aveu sous prétexte que sa cliente souffrait d'une commotion cérébrale et qu'elle n'était donc pas en possession de toutes ses facultés mentales, Didi pourrait rappeler avec quelle lucidité Léonie avait répondu sur d'autres points aisément vérifiables. Puisque Léonie avait pu se souvenir avec exactitude à quelle heure elle avait appelé le coordonnateur, dans quel secteur elle était partie patrouiller, etc., pourquoi supposer qu'elle se trompait d'un seul coup sur la façon dont elle avait tué son mari? Le genre de jeu auquel un bon enquêteur excellait. Quelques heures plus tôt, Didi n'aurait peut-être pas eu recours à de telles méthodes avec une collègue. Elle aurait peut-être été disposée à ne pas trop malmener ce pauvre agent Léonie qui s'était fait rouer de coups, à lui accorder le genre de traitement de faveur qu'on s'accorde généralement entre policières. Mais ça, c'était avant que les agents d'État piétinent sa scène de crime et excluent carrément Didi de leur omerta. Didi ne pardonnait rien. Didi n'oubliait rien. Et puis en ce moment, elle n'avait aucune envie d'enquêter sur une affaire d'enlèvement d'enfants. Mais ce n'était pas un sujet qu'elle pouvait aborder, même avec Bobby. « Donc, vous avez jeté un coup d'œil à votre fille à 11h15, » relança Didi. Sophie dormait, je l'ai embrassée sur la joue, elle s'est retournée, elle a remonté les couvertures. « Et votre mari ?»« En bas, devant la télé. »« Que regardait-il ?»« Je n'ai pas fait attention, il buvait de la bière, ça m'a distraite. J'aurais voulu... Je préférais quand il ne buvait pas. » « Combien de bières avait-il bu ?»« 3. »« Vous avez compté ?»« J'ai vu les bouteilles vides alignées à côté de l'évier. »« Votre mari est alcoolique ?» demanda Didi sans ménagement. Léonie regarda enfin Didi avec son seul œil valide, puisque l'autre moitié de son visage restait un amas de chair tuméfiée. Brian était désœuvré à la maison 60 jours d'affilée. J'avais mon travail. Sophie avait l'école. Mais lui n'avait rien. Parfois, il buvait et parfois... Boire ne lui valait rien. Donc votre mari, dont vous auriez préféré qu'il ne boive pas, avait bu 3 bières et vous l'avez quand même laissé seul avec votre fille. Hé ! Voulut encore intervenir l'agent Lyons. Mais Tessa Léonie répondit. Comme vous dites. J'ai laissé ma fille avec son beau-père ivre. Et si j'avais su, je l'aurais tué à ce moment-là, bon sang. Je lui aurais tiré dessus hier soir. Hola ! L'avocat avait bondi de son siège, mais Didi ne fit pas attention à lui et Léonie non plus. « Qu'est-il arrivé à votre fille ?» interrogeait Didi. « Que lui a fait votre mari ?» Léonie haussait déjà les épaules. « Il n'a pas voulu me le dire. Je suis rentrée, je suis montée à l'étage. Elle aurait dû être couchée, ou en train de jouer par terre, mais rien. J'ai cherché, cherché, cherché. Sophie avait disparu. » « Il lui était arrivé de la frapper ?» Parfois, il s'énervait contre moi, mais je ne l'ai jamais vu la frapper. « La solitude ? Vous vous absentez toute la nuit. Il reste seul avec elle. Non, vous vous trompez, je l'aurais su, elle me l'aurait dit. Bon. Alors, dites-moi, Tessa, qu'est-il arrivé à votre fille ? Je ne sais pas. Merde, ce n'est qu'une petite fille. Qui s'en prendrait à un enfant ? Qui ferait une chose pareille ?» L'agent Lyons posa ses mains sur les épaules de Léonie comme pour l'apaiser. Mais elle le repoussa. Elle se leva avec une agitation manifeste et ce fut le mouvement de trop. Presque immédiatement, elle manqua basculer sur le côté. L'agent Lyons la rattrapa par le bras et la fit rasseoir avec précaution sur la causeuse en transperçant Didi d'un regard assassin. « Doucement, » dit-il d'une voix rude à Tessa Léonie sans cesser de regarder Didi et Bobby avec colère. « Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas !» murmurait la mère policière. Elle n'avait plus l'air jolie ni vulnérable. Son visage était désormais d'une pâleur maladive. Elle semblait à 2 doigts de vomir et sa main caressait le siège vide à côté d'elle. Sophie est très courageuse et audacieuse. Mais elle a peur du noir, ça la terrifie. Un jour, quand elle allait avoir 3 ans, elle est montée dans le coffre de ma voiture de patrouille. Il s'est refermé et elle a hurlé, hurlé, hurlé. Si seulement vous aviez entendu ces hurlements, vous sauriez, vous comprendriez. Léonie se tourna vers l'agent Lyons. Elle attrapa ses mains musclées et scruta son visage avec désespoir. « Elle va forcément bien, hein ?
Tu la protégeras, hein? Tu t'occuperas d'elle. Ramène-la à la maison. Avant la nuit, Shane. Avant la nuit, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en supplie, s'il te plaît.
Lyons ne semblait pas savoir comment réagir devant ce débordement d'émotion. Il continua à tenir Léonie par les épaules de sorte que ce fut Didi qui attrapa le seau et le mit juste à temps sous le visage livide de Léonie, qui vomit jusqu'à se vider l'estomac. Et puis encore un peu.
« Ma tête !» gémit-elle en retombant déjà sur la causeuse.
« Hé ! Qui agite notre patiente ? Tous ceux qui ne sont pas ambulanciers dehors !»
Marla et son collègue étaient de retour. Ils entrèrent en force dans la pièce et Marla lança un regard sévère à Didi. Bobby et elle comprirent sans qu'on leur explique et se tournèrent vers la cuisine voisine. Mais Léonie étonnamment attrapa Didi par le poignet. La force de sa main pâle fut un choc pour Didi, qui s'arrêta net.
« Ma fille a besoin de vous !»
murmura l'agent pendant que les ambulanciers prenaient son autre main pour lui poser la perfusion.
« Bien sûr !»
dit Didi hébété.
« Il faut la retrouver. Promettez-moi.
Nous allons faire de notre mieux.
Promettez-moi !»«
D'accord, d'accord. On va la retrouver.
Bien sûr, vous. Allez à l'hôpital. Soignez-vous. »
Marla et son collègue installèrent Léonie sur le brancard. La policière se débattait toujours pour les repousser pour attirer Didi à elle. Difficile à dire. En quelques secondes, les ambulanciers la sanglèrent et sortirent de la pièce, l'agent Lyons suivant d'un air stoïque. Resté en arrière, l'avocat tendit une carte à Didi et Bobby lorsqu'ils sortirent du jardin d'hiver pour regagner le corps de la maison. Vous comprendrez évidemment que rien de tout cela n'est recevable devant un tribunal. Ma cliente n'a notamment jamais renoncé à ses droits, et je vous rappelle qu'elle souffre d'une commotion cérébrale. Ayant dit ce qu'il avait à dire, l'avocat partit à son tour, laissant Didi et Bobby seuls à la porte de la cuisine. Plus besoin pour Didi de se boucher le nez. Elle était trop distraite par cette rencontre avec l'agent Léonie pour remarquer l'odeur.
« C'est moi ?» Ou on dirait que Tessa Léonie s'est fait défoncer le visage à coups de marteau à viande.
Et pourtant, pas la moindre coupure ni écorchure sur ses mains, fit remarquer Bobby. Ni ongles cassés, ni ecchymose sur les doigts.
Donc elle se serait laissée tabasser sans faire un geste pour se défendre?
Jusqu'au moment où elle l'a flinguée, corrigea doucement Bobby.
Didi leva les yeux au ciel. Elle était perplexe et n'aimait pas ça. Les blessures au visage de Tessa Léonie semblaient bien réelles. Ses craintes devant la disparition de sa fille sincères. Mais cette scène, l'absence de blessures de défense, une policière expérimentée qui dégainait d'emblée son pistolet alors qu'elle avait tout un ceinturon à sa disposition, une femme qui venait de laisser libre cours à ses émotions pendant sa déposition, mais qui avait soigneusement évité de croiser leurs regards. Cette scène mettait Didi profondément mal à l'aise. À moins que ce ne soit le fait qu'une collègue femme vienne de l'attraper par le bras pour la supplier de retrouver sa fillette disparue. La petite Sophie Léonie, qui avait une peur panique du noir.
Seigneur, cette affaire allait être pénible.
Apparemment, son mari et elle se sont battus, résumait Bobby. Il a pris le dessus, il l'a jetée par terre, alors elle a dégainé. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a découvert que sa fille avait disparu. Et bien sûr, qu'elle s'est rendue compte qu'elle venait sans doute de tuer la seule personne qui aurait pu lui dire où elle était.
Didi hocha la tête, toujours pensive.
« Une question. Quel est le premier réflexe d'un policier, se protéger ou protéger les autres ?»«
Protéger les autres. »
« Et quelle est la priorité d'une mère ? Se protéger ou protéger son enfant ?»«
Son enfant. »
Et pourtant, la fille de l'agent Léonie disparaît et son premier mouvement est d'avertir son délégué syndical et de se trouver un bon avocat.
Peut-être que ce n'est pas une très bonne policière.
Peut-être que ce n'est pas une très bonne mère.